un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Nous fêtons cette année en France un drôle d'anniversaire qui prend en ce 8 mars un sens encore plus étrange. Cela fait 80 ans seulement que les femmes ont le droit de voter dans notre pays. Le 21 avril 1944, en effet, par ordonnance prise par le gouvernement provisoire du général de Gaulle à Alger, les Françaises deviennent enfin électrices et éligibles comme les hommes. Un an plus tard, le 29 avril 1945, elles votent pour la première fois et le 21 octobre de la même année, 33 femmes sont élues à la première assemblée constituante. Pourquoi la France, patrie des droits humains, qui se nomment encore longtemps les droits de l'homme, a-t-elle attendu si longtemps pour accorder aux femmes ce droit fondamental que leur avaient déjà octroyé 58 pays ou États dans le monde, comme la Birmanie ou l'Azerbaïdjan, la Mongolie, la Turquie, l'Ouzbékistan et la Nouvelle-Zélande depuis 1893 ? C'est une de ces questions que l'on peine à concevoir tant elle sidère. Comment est-ce possible ? Comment a-t-on pu empêcher ainsi la moitié d'un peuple pendant un siècle et demi d'accéder à des droits si durement acquis ? Quand on y songe, on y croit à peine, et ça n'est pas si loin. Comme l'a fait Stéphanie Thomas, on peut encore rencontrer des femmes qui n'ont pas voté pendant une partie de leur vie. Certes, il y a bien ce canton suisse, le canton d'Appenzell, qui a refusé aux femmes de voter au cantonal jusqu'en 1991. Mais cela ne nous console pas tellement qu'il y ait pire. Et ça n'est pas non plus comme si ce droit avait été acquis soudainement par la grâce du général, sans qu'il ait été porté par une lutte acharnée qui remonte à Olympe de Gouges, laquelle rédige et publie dès septembre 1791 une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne calquée sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle dira également « La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune et finira d'ailleurs guillotinée, à défaut de devenir une citoyenne à part entière. » Ce ne sont donc pas seulement des ordonnances, mais des combats qui finissent par triompher. Et qui sait si les luttes féministes d'aujourd'hui ne ressembleront pas dans un siècle à celles menées pendant toutes ces années pour le droit de vote des femmes. Des évidences absolues accompagnées du même sentiment d'incompréhension. Comment était-ce possible de les contester ? Tout de suite donc, par Stéphanie Thomas, les femmes ont le droit de voter, avec quelques archives soignées tirées de l'INA.
Eh bien, je suis Simone, née en 1920, dans le 12e, à Paris. Mes parents, ils sont ardéchois. Mon père était dans l'imprimerie et il faisait marcher les rotatives pour imprimer les journaux. Donc j'ai appris à lire sur les titres des journaux. Ma mère ne travaillait pas. Et j'avais un frère, 3 ans plus jeune que moi. Elle nous élevait tous les deux. Nous allions à l'école là, dans le quartier, et après, j'ai été vers le parc Monceau, dans une école privée, pour faire un diplôme de commerce, avec de l'anglais. Je tapais à la machine, je faisais de la sténo, je voulais arriver à quelque chose. Ne pas rester... il fallait que j'arrive à sortir du lot, faire... ce qui me plaît. Donc, j'ai commencé à travailler à 18 ans. J'ai commencé dans une boutique. C'était une boutique qui vendait des passementeries pour les fenêtres, les rideaux, les passementeries. Et j'étais à la caisse. Dans l'Est de Paris, j'ai travaillé un mois. Et après, j'ai été comptable industriel. Au laboratoire Roussel-Luclaf. Je me suis mariée en janvier 49. Mon mari, à ce moment-là, était représentant et travaillait aussi avec son beau-frère dans les casinos en Auvergne. Et j'aurais bien aimé continuer à travailler. J'aimais le métier que j'avais. Mais mon mari m'a dit, il avait perdu sa mère à 5 ans, et il en avait souffert. Et alors moi, comme il m'avait dit, si nous avons des enfants, j'aimerais que tu les élèves toi-même. C'est ce que j'ai accepté. Donc, j'étais au foyer, je ne travaillais pas. Et à la maison, je faisais du travail plus que n'importe qui. Ben oui, 3 enfants, la nourriture, les commissions, la lessive, enfin, j'avais pas de bol, hein. Je faisais tout par moi-même. Et mon mari, lui, rentrait le soir, c'était tout prêt. Donc, je trouvais que ça faisait un décalage. Nous étions quand même dépréciés. Les femmes au foyer.
Pour la première fois depuis 9 ans, le peuple français a fait entendre sa voix. Pour la première fois depuis toujours, ce cœur de 20 millions de voix comportait voix d'hommes et voix de femmes. On a fait la queue sans grogner. On a glissé 2 bulletins dans 2 urnes. Les Français et les Françaises les plus variés ont dit leur mot, oui ou non, et choisi une liste.
J'ai toujours voté. Il n'y a que depuis que je ne peux plus marcher toute seule que je ne peux pas voter. Je me souviens bien de la première fois que j'ai voté. Ah oui, je m'en rappelle. J'étais avec une voisine dans une école, oui. Et il y avait beaucoup de femmes. Hein. Les femmes avaient trouvé que c'était un peu normal. Oh, je me rappelle, oui. Maman aussi, elle allait voter. Ben oui, c'était un supplément, c'était quand même un titre supplémentaire pour les femmes. Chez moi, on parlait, mais mon mari me disait, ça ne change à rien. Le vote des femmes ne changera à rien. Et moi, je lui disais que si. Pour moi, c'était important. Ah, j'étais contente, oui. Je trouvais que c'était quand même logique de ne pas avoir qu'un seul avis. Et mon mari m'a dit, ça ne changera pas grand-chose. Les femmes, elles vont voter comme leur mari. J'ai dit, ben non. Ben non, parce que je me rendais bien compte que je faisais à la maison un travail qui était un vrai travail, alors qu'il n'était pas considéré. Je trouvais que je travaillais beaucoup. Je trouvais qu'on travaillait plus que moi, je l'avais travaillé au bureau. Au bureau, j'étais moins fatiguée que lorsque je travaillais à la maison. Je pense qu'elles ont quand même compris la valeur, oui, de leur vote, que ça pouvait quand même changer un petit peu. Oh, peut-être pas tellement au début, mais après, quand même, les femmes allaient voter, hein. Oh oui, il y avait des femmes, toutes les femmes allaient voter. Mais le regard des hommes vis-à-vis des femmes, ça n'a pas tellement changé. Dans la politique, il n'y avait pas tellement de femmes à ce moment-là. Il n'y avait pas de femmes. Petit à petit, elles se sont introduites, elles se sont bien... Mais ça a eu du mal à changer, je pense. Ça a été très long. C'était les hommes qui faisaient la politique. Et on ne pouvait pas avorter. Ça a été long, hein, mais bon, on a eu du mal. Hein. Ça se faisait en catimini. C'était secret, ça. Et maintenant, le sort des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne croyez pas que c'est un peu pareil? Hein? Eh bien, je trouve qu'elles ont beaucoup plus de travail. Nous, on avait du travail, mais on travaillait chez nous. Alors que maintenant, les femmes, elles travaillent à l'extérieur, elles ont les enfants à l'extérieur, et chez elles, il faut quand même qu'elles fassent encore. Hein?
Est-ce que ça vous intéresse, mademoiselle?
Bien sûr
ça m'intéresse beaucoup.
Et vous, jeune homme?
Ben oui, pourquoi pas? Il n'y a pas de raison que les femmes fassent pas.
Ah, ça c'est bien.
J'étais à Châtellerault dernièrement, j'ai vu la petite femme, j'étais au grand discours, et je trouve pas que c'était pas tant. Allez-y voir, messieurs.
Mesdemoiselles, je suis très heureuse qu'à Chauvigny, vous vous intéressiez avec cette ardeur au vote des femmes. Et je remercie votre directeur de nous avoir permis de vous parler dans sa fabrique.
Je suis féministe depuis longtemps et j'espère que votre prophète aura gain de cause au Sénat.
Voulez-vous me dire, je vous entendais parler tout à l'heure, voulez-vous me dire ce que vous pensez du vote des femmes?
Écoutez, madame, je suis tout à fait contre le vote des femmes parce que je trouve que ce n'est pas du tout la place d'une femme d'aller voter. J'estime que les femmes ne connaissent pas suffisamment la politique pour pouvoir se permettre d'avoir une opinion. Et elles voteront selon l'opinion du chef de famille, ce qui peut fausser les élections, parce que j'estime qu'un homme va avoir à ce moment-là 5 voix pour lui, alors qu'il devrait avoir que la sienne.
Écoutez, vous nous dites d'abord que c'est parce que les femmes ne savent pas voter qu'elles ne connaissent pas la politique. Est-ce que vous croyez que tous les hommes qui vont voter connaissent la politique?
Non, évidemment, mais enfin...
Je m'appelle Irène, je suis née le 5 mars 1924 à Courbeau-de-l'Orgueilleux, dans la Nièvre. Je suis fille unique. Mon père travaillait dans une papeterie, il était chauffeur d'une machine à vapeur dans une papeterie. Et ma mère, elle avait un petit commerce de campagne où on vendait un peu de tout. Du tabac, ça faisait le café, et puis l'épicerie, voilà. C'était petit, le village, il a 7 maisons. Je suis restée à peu près 20 ans, 21 ans, je suis rentrée. À 21 ans, je me suis mariée, je suis venue à Paris. Ah ben, on allait en famille voter. Le mari et la femme, on allait ensemble, et chacun avait son petit billet avant de partir. Ah ben, j'étais contente quand même, parce que ça donnait un droit qu'on n'avait pas avant. Ben, ça donnait une certaine liberté à la femme qu'elle n'avait pas, parce que les lois étaient faites par des hommes pour les hommes, et pas pour les femmes. Ça nous brimait, ça nous empêchait quand même de faire bien des choses. Hein. On en parlait entre femmes. C'est pour ça que ça nous a fait quand même un grand plaisir de pouvoir voter. Ben, on était presque tous du même avis. Hein. Les maris n'écoutaient pas. Non, ça ne les intéressait pas. Mon mari était le fils de parents basques. Mais à Paris, et il venait en vacances dans le hameau. On n'avait pas de travail là-bas. Il fallait bien vivre. Et donc, il est rentré au métro. Parce que son père travaillait à la RATP. Il lui a dit, son père, quand il s'est fait inscrire, « Aide-toi, le ciel t'aidera. » Il avait une chambre de bonne, vous savez, sous les toits, dans le 15e, à Porte de Versailles. Et on est resté là pendant 11 ans, à vivre à 4. Ça faisait 25 mètres carrés. C'était pas grand. Hein. Oui, Jean est né en 46. Et puis l'autre est né en 45. Moi, j'ai accouché à Boussicot. Ça n'existe plus d'ailleurs. C'était un hôpital, Boussicot, rue des Cévennes. Et je suis allée à pied de la porte de Versailles jusqu'à Boussicot à pied. Pour accoucher, il n'y avait pas de transport, il n'y avait pas d'ambulance, il n'y avait pas tout ça. Oh, c'était difficile, parce qu'il n'y avait pas de draps dans les maternités. Et on avait du linge américain, alors du drap qui grattait. Ils vous donnaient des chemises en toile, c'était très rustique. Il n'y avait pas beaucoup de crèches, il n'y avait pas beaucoup de garderies. Il fallait se débrouiller avec par connaissance. des dames qui faisaient ça sans être déclarées, bien sûr. Moi, je suis restée pour m'occuper des enfants. Et j'habitais 6e, sans ascenseur, et une chambre de bonne. On espérait beaucoup de De Gaulle, et il a donné pas mal. Faut reconnaître les choses. Parce qu'il nous avait sauvé la vie, hein. Il a fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais pas tellement pour la femme, hein, je crois non plus. On se disait pas pour qui on votait, hein, dans la famille. Ah, ben c'était un secret. Plutôt de gauche. Parce que je trouvais qu'ils étaient plus ouverts que à droite. Mes parents étaient de gauche aussi, je crois. Je pense qu'on arrivait à l'égalité avec les hommes. Mais ça a mis du temps. J'ai fait tous les métiers. J'ai fait de la couture. J'ai travaillé presque quand même que dans la couture. Hein. J'ai fait du prêt-à-porter, j'ai fait de la boutique, j'ai fait de la vente, j'ai fait des retouches, j'ai fait enfin tout ce qui concerne la couture. En principe, moi, j'étais payée, vous savez, c'était une enveloppe et puis il y avait l'argent dedans. Il n'y avait pas de chèque. Hein. Les femmes n'avaient pas le droit au carnet de chèque. Oui, les femmes de cette époque-là avaient des choses à acquérir. La liberté, la liberté de sortir, la liberté d'achat aussi. Alors, les maris donnaient leur avis sur la robe et sur tout. Et même quand je travaillais à Bourg-la-Reine, un certain monsieur qui était venu avec sa femme pour acheter la robe, et il a dit, elle me plaît pas. Alors, il a dit, pourquoi? Ben, je sais pas, il dit, elle me plaît pas. Et puis après, il dit, ben, elle a pas de manches. Ben, moi, je pensais que c'était pas normal. C'était le mari qui avait les sous pour faire tourner le ménage. Et puis, c'était lui un peu qui dictait la façon de te conduire dans la vie. Hein. C'était un mari normal, je pense. Pas très souple des fois. J'ai toujours voté, il n'y a que l'année dernière que je n'ai pas voté. Parce que je ne pouvais plus marcher, là, je ne pouvais plus. J'aime pas beaucoup le régime actuel. Ni la droite, ni la gauche. Oh, c'est pas brillant. Hein. Le Premier ministre, il a l'air d'un lycéen. Il sait pas, il connaît pas la France, il connaît pas les Français. C'est une génération qui est formatée comme ça, et puis... C'est pas des gens qui connaissent vraiment les besoins des gens. Les prochaines élections, c'est les européennes, si on m'emmène voter, oui. Avec l'Europe, c'est quand même important que tout le monde soit d'accord pour vivre en paix. Si je peux y aller, j'irai.
Savez-vous l'une et l'autre qui êtes jeune, toute jeune, qu'il n'y a pas tellement longtemps que les femmes ont le droit de vote?
Depuis quand exactement les femmes ont-elles le droit de vote? J'avoue que...
Eh bien, Madame Weiss va vous le dire.
Eh bien, c'est le général de Gaulle qui nous a donné le droit de vote lorsqu'il était encore à Alger. Mais je dois dire que nous avions beaucoup lutté pour obtenir l'égalité des droits politiques avec les citoyens français.
Comment?
Oh, de toutes les façons. Nous avons d'abord suivi l'exemple des suffragettes anglaises. C'était la seule méthode. Il fallait, comme disait Madame Pankhurst, la grande suffragette anglaise, créer des nouvelles. Créer des nouvelles, ce n'est pas envoyer...
Frapper l'opinion, autrement dit.
Oui, oui, oui. Ce n'est pas envoyer de longs papiers à des journaux où ces papiers ne sont pas lus, ni à la corbeille. Il fallait passer à l'action.
Le Sénat, voilà la citadelle anti-féministe dont il nous faut vaincre la résistance.
Les militantes du groupement La Femme Nouvelle donnent une aubade burlesque à M. Merlin, sénateur. elle lui reproche d'avoir fait ajourner une proposition du groupe féministe du Sénat ayant pour objet la nomination de conseillères municipales adjointes.
Madame Weiss, ces sénateurs, que vous avez-ils fait au juste ?
Eh bien, ces sénateurs s'étaient opposés à toutes les réformes envoyées sous forme de projets ou propositions par la Chambre des députés. C'était donc le bastion qu'il fallait enlever.
Vous étiez pourtant pleine d'attention à leur égard. Vous leur offriez des chaussettes.
Ah oui, ils nous avaient renvoyé à nos chaussettes officiellement. Alors nous leur avons apporté des chaussettes pour leur montrer que tout en réclamant nos droits, nous étions tout de même de bonnes ménagères et que nous pouvions repriser les dites chaussettes.
Je m'appelle Marie-Josée. Je suis née en 1923.
Maman, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé quand tu as été votée pour la première fois? Est-ce que tu te souviens qui était avec toi?
Marie-Claude Vaillant-Couturier.
Oui.
Geneviève de Gaulle.
Avec toi, il y avait Marie-Claude Vaillant-Couturier, Geneviève de Gaulle. Est-ce que Germaine Tillon était là aussi?
Oui.
Voilà.
Et j'étais fière de pouvoir voter. D'avoir le droit de donner ma parole. Et j'ai mis mes premières décorations. Je n'avais pas encore de décorations, tu vois.
Maman était en camp de concentration parce qu'elle faisait partie du réseau des résistantes de Bretagne-Nord. Et tout leur réseau a été arrêté parce qu'ils ont eu un agent double qui les a vendus. Et maman faisait ses études de médecine à Rennes et elle a été arrêtée dans son studio à Rennes en 1942. Elle avait juste 18 ans. Et après, déportée à Ravensbrück.
Voilà.
Et c'est là où, à Ravensbrück, elle a retrouvé Marie-Claude Vaillant-Couturier, Geneviève de Gaulle, Germaine Tillon, Denise Vernet, qui était la sœur de Simone Veil. Et après la guerre, elles ont continué à lutter. Elles avaient milité, travaillé comme résistantes. Donc c'est pour ça que le général de Gaulle a décidé de leur donner le droit de vote. Moi, je suis Noëlle Chambard de Lauve, je suis sa seconde fille. Alors ici, nous sommes à l'Institut National des Invalides et maman est entourée de généraux ou de personnes comme elle qui n'ont pas fait une carrière militaire après la guerre mais qui étaient considérées comme militaires compte tenu de leur action pendant la guerre, de résistantes. Ah, la politique était extrêmement importante, mes parents militaient beaucoup. Alors mon père était au PS, c'est PSU à l'époque. Et maman était entre le PSU et elle était comme Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui était sa meilleure amie, les communistes. Elle était entre les deux, sans avoir été ni vraiment dans l'un, ni vraiment dans l'autre. Mais à chaque fois qu'il y avait des manifestations, etc., les parents y allaient. La guerre d'Algérie, etc., enfin, les parents étaient toujours là pour défendre les droits de l'homme, en fait. Droits de l'homme, droits de l'enfant. Maman a dirigé la Ligue des droits de l'homme pendant longtemps. Qu'est-ce qu'elle nous a transmis? Bah, d'abord qu'il fallait que les femmes travaillent. Ça, c'était très important. Et il était normal que nous, les filles, on travaille. Et puis les garçons aussi, bien sûr. Mais ça, c'était plus évident. Il fallait, bien sûr, qu'on aille voter, parce que c'était très important. Et puis, il fallait qu'on continue à militer pour tout le droit des femmes. Parce qu'en 1945-1946, les femmes avaient peut-être le droit de vote, mais n'avaient pas le droit de travailler si leur mari n'était pas d'accord. Il fallait l'accord du mari pour travailler. Moi, je sais que j'ai toujours voté. J'ai toujours voté. Et pour les parents, c'était extrêmement important qu'on aille voter. Ben oui. Alors, les dernières années, quand papa n'était plus là, maman votait à Antony, et c'est moi qui l'emmenais au bureau de vote. Et on allait ensemble, moi je votais à Paris, mais après, j'allais la chercher, et je l'emmenais au bureau de vote, et je l'accompagnais pour aller voter. Maman a voté pour la dernière fois pour les dernières présidentielles. Ça doit être en 2022, mais alors elle voit presque plus et elle entend presque plus. Donc je l'accompagnais et on me laissait aller dans le bureau de vote. On y allait toutes les deux, dans l'isoloir. On y allait toutes les deux parce qu'Antony c'était sur des écrans. Et comme il n'y avait pas de, elle ne voit pas, on m'a laissé l'accompagner et puis j'ai cliqué pour elle.
Je crois que l'on peut encore beaucoup pour les femmes en leur rappelant. D'abord qu'elles sont la majorité de l'électorat et qu'ensuite elles doivent prendre conscience de leur force politique et de leurs besoins réels. Je ne regrette qu'une chose, voyez-vous, c'est de ne pas m'être présentée comme candidate aux élections présidentielles. Je suis certaine qu'avec mon passé, qu'avec tous les travaux dans lesquels je suis engagée, pour la paix, pour la compréhension et la fraternité humaine, eh bien, mes compatriotes m'auraient accordé quelques voix.
C'était « Quand les femmes eurent le droit de voter », un reportage de Stéphanie Thomas qui a réalisé, je le précise, un film sur ce sujet intitulé « Citoyenne » qui sera diffusé sur la chaîne parlementaire le 8 avril. Cette émission a été réalisée par Éric Lancien avec Benjamin Hu. Nous remercions Simone, Irène et les autres. Et notre attaché de production, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi.